France Culture. Le journal, Diane Berger.
Il est 9h, bonjour à toutes et tous. Après des semaines de pression de la communauté internationale, Israël va laisser entrer de l'aide à Gaza. L'armée annonce une pause tactique quotidienne dans plusieurs zones du territoire palestinien. Une pause qui servira à mettre en place des couloirs humanitaires. Dans le même temps, l'État hébreu a intercepté le nouveau navire de la flottille pour la liberté dans les eaux internationales, donc hors de la juridiction israélienne. Nous reviendrons également sur la fragilité des aires marines protégées. La pêche industrielle surexploite 47% d'entre elles. Et puis, sans alcool, la fête est plus folle. Le slogan n'est plus tout jeune, mais il est totalement d'actualité pour les Australiens. La nouvelle tendance dans les grandes villes du pays, faire la fête sobre et tôt le matin, boire son café devant les platines d'un DJ. Israël commence à répondre aux pressions internationales face aux appels à laisser rentrer de l'aide humanitaire pour éviter le pire. La population de Gaza est menacée par une famine gravissime. L'État hébreu fait des concessions. Les autorités israéliennes ont repris des parachutages d'aide humanitaire la nuit dernière. 7 lots de denrées alimentaires ont été largués dans l'enclave palestinienne. Et l'armée israélienne a annoncé ce matin des pauses tactiques, des corridors humanitaires. Pour en parler, nous sommes avec Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Bonjour Michel.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Michel, comment est-ce que cela va se passer concrètement ?
L'armée israélienne annonce l'entrée en vigueur de pauses humanitaires tactiques quotidiennes de 10 à 20 heures tous les jours, donc dans les secteurs de l'enclave palestinienne où l'armée n'opère pas en ce moment, notamment Al-Mawassi, Dir Balah et Gazaville. Point important, des couloirs humanitaires désignés devraient également, dès ce matin, être mis en place pour permettre l'acheminement par voie terrestre des convois de l'ONU avec de la nourriture et des médicaments destinés à la population gazaoui. Des mesures réclamées depuis des mois, mais qu'Israël avait toujours refusées. Et puis la nuit dernière, un premier largage aérien d'aide humanitaire. En tout, 7 lots d'alimentation, notamment de la farine, du sucre et des conserves. L'armée israélienne indique ce matin être prête à étendre l'ampleur de cette activité si nécessaire.
Et puis dans le même temps, Michel, la marine israélienne a quant à elle intercepté la nuit dernière le Andala, un bateau du mouvement pro-palestinien La Flottille pour la Liberté, chargé d'aide humanitaire à destination de Gaza.
Oui, c'est le même scénario que le mois dernier avec le Madeleine. Les commandos de marine israéliens prennent le contrôle du navire Andala dans les eaux internationales au large de Gaza. Le tout retransmis en direct sur les réseaux sociaux. On a pu voir les militants pro-palestiniens assis sur le pont, les mains en l'air et sifflant la chanson antifasciste italienne Bella Ciao. Le chalutier affrété par la flottille pour la liberté est remorqué en ce moment vers le port d'Ashdod et cela va prendre de longues heures. Ensuite, ceux des passagers et membres d'équipage qui accepteront de signer des documents de décharge seront immédiatement expulsés. Pour les autres, une procédure judiciaire sera entamée qui, elle, prendra plusieurs jours.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. Et puis nous l'avons appris il y a quelques minutes, selon un média égyptien proche du pouvoir au Caire, des camions d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza ce matin via le sud, via donc le poste frontière de Rafah. Du côté français maintenant, Paris veut pousser d'autres pays à reconnaître l'État de Palestine. Dans une longue interview donnée au journal La Tribune dimanche ce matin, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur les raisons qui font que la France va reconnaître de son côté l'État palestinien. Jean-Noël Barrot livre aussi sa feuille de route pour que la conférence qui s'ouvre demain sur la solution à deux États. Virginie Pironon.
Deux États, palestiniens et israéliens, c'est la seule solution politique susceptible de ramener la paix. Pour le chef du Quai d'Orsay, la décision de la France de reconnaître un État palestinien est, je cite, « l'expression du refus de l'injustifiable à Gaza et de l'inacceptable en Cisjordanie ». Dès demain à New York, la France lancera donc un appel pour que d'autres pays se joignent à elle afin d'enclencher, ouvrez les guillemets, une dynamique encore plus ambitieuse qui culminera le 21 septembre prochain, date de l'annonce solennelle de la reconnaissance par la France de l'État palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que Londres et Berlin temporisent, Paris promet d'ici septembre d'œuvrer sans relâche pour entraîner d'autres pays dans son sillage. La France, qui souhaite également obtenir de nouveaux engagements des pays arabes vis-à-vis de la sécurité d'Israël. Jean-Noël Barrot invite le gouvernement israélien, je cite, « à se saisir de cette initiative française pour fermer le chapitre de la guerre et ouvrir celui de la paix.
La guerre à Gaza qui a fait irruption hier soir au premier anniversaire des Jeux Olympiques de Paris. Quand le ballon de la vasque olympique s'est élevé au-dessus du jardin des Tuileries, un message est apparu en grandes lettres blanches « Stop génocide à Gaza ». L'opération menée par Amnesty International sans l'autorisation des pouvoirs publics a duré une vingtaine de minutes. Dire que l'on préserve un endroit ne suffit pas. 47% des aires marines protégées dans le monde sont surexploitées par la pêche industrielle. Le chiffre provient d'une étude publiée dans la revue Science la semaine dernière. À partir d'images satellites, les chercheurs ont pu montrer que les bateaux de pêche naviguaient sur ces aires marines protégées. Éléonore Claude.
Le problème des aires marines protégées, c'est qu'elles ont de multiples statuts. Philippe Curie, océanographe et biologiste à l'Institut de recherche pour le développement, l'expliquait dans un guide paru en 2021.
Quand on regarde qu'est-ce qui est vraiment protégé, on s'aperçoit qu'il y en a un très très faible pourcentage. Au niveau mondial, c'est 2,6%, ce qui veut dire que 97,4% des zones marines ne sont pas protégées. Et protégées de quoi ? Eh bien, exploitées par la pêche, exploitées par l'extraction minière. Toutes ces activités anthropiques qui détruisent la biodiversité.
Rares sont les zones pleinement protégées. La plupart d'entre elles sont de toute façon trop profondes pour intéresser les chalutiers, voire inaccessibles pour certains navires, explique le chercheur. Une protection donc, mais que sur le papier, puisque la moitié des navires de pêche industrielle en zone protégée passent sous les radars satellites appelés AIS en éteignant le leur, explique Raphaël Seguin, chercheur en biologie marine et membre de l'ONG Bloom pour laquelle il a réalisé l'étude.
Les navires ne sont pas du tout obligés d'avoir ce dispositif AIS. Et puis il y a d'autres situations où ils vont l'éteindre volontairement pour masquer leur activité de pêche, pour faire de la pêche illégale, etc.
Le chercheur a analysé des données satellites en libre accès. Les zones protégées sont régulièrement violées.
Dans les aires marines protégées à l'échelle mondiale, il y a tout ce pan de la pêche industrielle qu'on rate à travers les données AIS, qui sont la seule source de données publiques transparentes à laquelle on a accès. Les bateaux de pêche industrielle ont le droit légalement d'aller pêcher dans la grande majorité des aires marines protégées dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des aires marines protégées sont créées par les gouvernements pour faire du chiffre, pour accomplir les objectifs de conservation, etc. Mais à la plupart du temps, elles ne sont pas alignées avec les recommandations scientifiques, dont notamment l'exclusion de la pêche industrielle.
Il ajoute qu'en France, seulement 0,1% des aires marines protégées le sont intégralement.
0,1% quand le pays aspire en plus à protéger 30% de ses aires marines au total. La Thaïlande et le Cambodge se disent prêts à des discussions. Donald Trump, le président américain, a appelé les dirigeants des deux pays pour entamer une médiation et essayer d'arriver à un cessez-le-feu. Les affrontements continuent pour l'instant à la frontière entre les deux royaumes. Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités jeudi matin. On compte d'ores et déjà une trentaine de morts et plus de 200 000 déplacés de part et d'autre de la frontière. On mentionnait Donald Trump, lui est en ce moment en Écosse où il va rencontrer aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Au programme, un possible accord douanier entre Bruxelles et Washington. Le chef d'État américain menace toujours de surtaxer les produits européens importés aux États-Unis à hauteur de 30% si aucun compromis n'est trouvé avant le 1er août. Vous faites, sauf si vous avez fait une grosse erreur en programmant votre radio, des personnes qui ont l'habitude de vous réveiller avec France Culture. Vous avez d'ailleurs bien raison et vous êtes chaque année de plus en plus nombreux. En Australie, une autre tendance prend de l'ampleur, faire la fête dès le réveil. La caféine à la place de l'alcool, le carrelage du café en guise de piste de danse. Reportage à Sydney de Grégory Pless.
Il n'est pas encore 10h du matin et pourtant déjà plus de 400 personnes se déhanchent sur une piste de danse improvisée dans un café de Sydney. C'est Morning Rave, c'est la nouvelle tendance en Australie et ils sont de plus en plus nombreux à s'y adonner. Parmi ces nouveaux convertis, on croise aussi un couple de Français, Victoire et Lucas.
Pour nous c'est parfait, petit café à la main, c'est encore mieux que faire ça on va dire à minuit ou 1h du matin, on est bien réveillés, on est en forme.
Derrière les platines aussi, l'enthousiasme est réel. La DJ Catch 25 n'avait jusqu'à présent exercé ses talents qu'une fois la nuit tombée.
C'est génial, l'ambiance est tellement différente de celle des discothèques et c'est une nouvelle énergie rafraîchissante. Et c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'alcool ou de quoi que ce soit d'autre pour s'éclater.
Cette fiesta matinale, elle a aussi le mérite d'attirer des gens comme Ofar qui ont depuis longtemps renoncé aux nuits blanches.
J'ai la cinquantaine, je ne peux plus aller en boîte. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, du coup ça c'est super. On peut prendre un café, bavarder entre amis et puis danser. Et après on rentre à la maison, s'occuper des enfants.
Devant un tel engouement, la grasse matinée n'a qu'à bien se tenir car de plus en plus d'Australiens sont gagnés par la fiesta. Fièvre du samedi matin.
Un reportage de Grégory Pless à Sydney. Un mot de la météo en France, beaucoup moins ensoleillé que Groove is in the Heart. Le temps va être pluvieux, voire orageux sur le quart nord-est de la France. Vous pouvez vous attendre à un temps couvert sur le reste du pays. Avec des averses, les températures baissent un peu, entre 18 et 21 degrés ce matin, autour des 22 cet après-midi, sauf sur la côte méditerranéenne où le mercure pourrait monter jusqu'à 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Les éditions de ce matin ont été réalisées avec Alix Forgeau et à la technique Olivier Arnay.